Vous écoutez
RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Ce vestiaire, tu sais comment c'est. Si c'est un gros con, mais qui te fait gagner tous les matchs. Eh ben, je sais pas pourquoi, moi, je l'aime. Voilà, moi, oui. Les gros, j'ai joué avec des gros cons. Ils me faisaient gagner les matchs, mais je l'aimais. Allez.
Le procès de Rotten sans flamme.
On n'en aura pas les noms.
Une première depuis 1990, on donne jamais les noms, Eric. Le Brésil s'est fait sortir en huitième de finale de Coupe du Monde. Cette défaite qui met fin à une série de 8 qualifs consécutifs pour les quarts de finale. Brésil dominé par la Norvège. C'est fini pour la génération Marquinhos, Neymar, Casemiro. L'échec pour Carlo Ancelotti, qui est sélectionneur depuis plus d'un an. Tu crois qu'il va continuer encore?
C'est possible. Hein.
31 ans, ouais. Tu vois.
Bah, écoute.
Tu as 35 ans, tu le vois.
Ouais. Oui.
En tout cas, il l'a pas dit officiellement. T'as raison. On suivra ce qui va se passer. Ce Brésil sans idée, sans style de jeu. On rappelle le bilan d'Ancelotti.
Il a son 80 ans. Il est encore là. Fort, ouais.
17 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites. D'ailleurs, Ancelotti qui est sous contrat jusqu'en 2030.
Ouais. Ah
bah, alors, on va ouvrir son procès ce soir. Ancelotti qui est accusé
d'être
le principal responsable de l'échec brésilien. On a un procureur, Jérôme Rotten, bonsoir.
Ah, je suis tout seul.
Mais c'est incroyable.
Non, c'est fou, de manquer d'objectivité.
C'est dingue, c'est dingue.
Bon, écoute, bonsoir à tous.
Deux avocats pour Carlo.
Hola.
Eric Dimeco,
bonsoir. Chicos.
Hola, chicos.
Hola, chicos.
Et Jean-Michel Larquet. Bon dia.
Voilà, bon dia.
Je suis là. Bon dia.
C'est Pierre qui va rendre son verdict au 32-16. Salut, Pierre.
Salut, bonjour à tous.
Salut, Jérôme. Bienvenue. Merci, Pierre.
Jérôme, t'es le seul courageux de la bande, donc vas-y, merci. Tu peux attaquer Carlo Ancelotti.
Ben non, mais en fait, j'ai hâte d'entendre Jean-Michel et Eric.
Non, mais parle pour toi d'abord.
Comment ils vont le défendre? Parce que, en fait, j'ai du mal, si ce n'est d'aller sur le palmarès de Carlo Ancelotti, il n'y a pas de problème, beaucoup de respect. Moi, c'est pas ça que je critique.
Ça, c'est un argument.
Oui, parce qu'il a tout gagné, Carlo, en club, donc je vais pas aller à dire que c'est un petit manager et c'est un petit entraîneur. Il découvre le rôle de sélectionneur, ça c'est sûr. Le rôle de sélectionneur, et tout le monde est unanime pour le dire, ceux qui sont passés par les deux positions, que ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation. Et peut-être qu'il arrivera à prendre la mesure de ce poste de sélectionneur. Mais là, on est obligé de constater qu'au bout d'un an d'arrivée de Carlo Ancelotti, ça fait un an qu'il est là. En fait, il a apporté que dalle. Donc, tu payes très cher un sélectionneur comme Carlo Ancelotti parce que tu payes le nom et le palmarès, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça, c'est la fédération brésilienne qui se démerde. Et ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Et tant mieux pour Carlo Ancelotti s'il a un gros contrat.
Ce qui est sûr,
c'est que ce qu'il a apporté aux joueurs sur le terrain, il n'a rien apporté. Et moi, je suis désolé. Le Brésil, plus qu'une autre sélection, ça aurait été une autre sélection, j'aurais peut-être pas parlé comme ça et j'aurais pris un petit peu de, du moins, j'aurais été sur la retenue pour critiquer Carlo Ancelotti. Mais quand même, Carlo Ancelotti, c'est pas un lapin de 3 semaines. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait où il met les pieds quand il prend. Deux, trois semaines. Ce que je veux dire, c'est quand il prend le Brésil avec tout ce que doit avoir le Brésil, c'est-à-dire dans son système de jeu. Je veux bien qu'il soit pas dans la plus belle des générations brésiliennes. Et c'est pas que celle-là, celle d'avant aussi était moyenne. Donc on est d'accord, si tu veux, qu'il y a un manque à ce niveau-là en termes de joueurs très techniques, de joueurs qui arrivent à se sublimer avec le maillot de la sélection. Mais là, on n'a rien vu. Et la seule stratégie de Carlo Ancelotti, ça a été exactement celle de l'ancien sélectionneur, celui d'avant. Autant ne pas changer dans ces cas-là, c'est que vous regardez les équipes. À part un ou deux joueurs, c'est toujours les mêmes qui sont sélectionnés. C'est-à-dire que t'as l'impression.
Mais parce qu'ils n'en ont pas d'autres.
Non, je suis désolé. Quand tu prends Carlo Ancelotti et que tu nous dis après la Coupe du Monde, vous verrez, dans 4 ans, on sera meilleur. Eh ben, dans ces cas-là, quand t'as pris le rôle en juin 2025, t'aurais dû dire, écoutez, la Coupe du Monde, elle arrive dans un an. On va essayer de se qualifier. Mais nous, on est en construction. Et tu mets des jeunes dans ces cas-là. Parce que moi, j'ai vu des équipes brésiliennes en club assez performantes à la Coupe du Monde des clubs. On les a vues. Fluminense, Flamengo. C'est des équipes, en fait, qui ont été un petit peu rafraîchissantes. On était même surpris de leur niveau.
Allez, il faut passer à la parole.
L'équipe brésilienne qui a été en finale contre le PSG, Flamengo. Flamengo a failli battre le Paris Saint-Germain avec des profils de joueurs, peut-être de la jeunesse. Pourquoi ces joueurs-là n'arrive pas en sélection. Pourquoi t'es obligé de faire du vieux avec du vieux et toujours du vieux? Casimiro, Paqueta, Guimarães, et puis j'en passe et tout ça. Non, mais ce que je veux dire, Danilo, 34 ans, 35 ans, arrière droit. On a vu contre le Maroc, je suis désolé, cette équipe, elle méritait au moins d'avoir une autre structure. Et là où je finis là-dessus, je suis désolé, mais quand je parle d'ADN du Brésil, j'ai du mal, moi, à regarder des équipes brésiliennes qui laissent le ballon à une équipe comme la Norvège. Ils ont eu 40% de ballon, même pas 40% de ballon de possession contre la Norvège. Ouais. Mais où vous avez vu ça, une équipe brésilienne? Alors, non, mais comment Carlo Ancelotti peut faire jouer le Real Madrid, le Brésil comme le Real Madrid de l'époque? C'est pas possible. T'as le maillot jaune, c'est le maillot du football, quoi, tu vois.
Ou du Tour de France. Allez, vas-y, Jean-Mi.
Oui. Non, Paul Seixas. Évidemment. Évidemment qu'il a une petite responsabilité, comme le docteur, comme le diététicien, comme le président de la fédération. Mais le problème d'Ancelotti, il est dans la droite lignée de ce que fait le Brésil depuis 26 ans ou 24 ans. Le Brésil n'a pas battu une équipe européenne en phase finale de Coupe du Monde. Pas depuis 26 ans. Les dernières performances, ils ont fait quart en Russie, ils ont fait quart au Qatar, éliminé en quart au Qatar. Chez eux, ils sont allés en demi-finale. Vous vous rappelez quand même la branlée qu'ils ont pris?
Oui.
Et on a fait des.
Oui, mais sur les matchs d'avant, on avait vu autre chose quand même.
Et on a fait des débats sur l'équipe actuelle. Mais Danilo, mais Koundé, c'est un génie à côté de Danilo. Mais là, j'ai regardé 3 matchs du Brésil, j'attends que Danilo, l'arrière latéral droit, héritier des Cafu, des Dani Alves, des Carlos Alberto, il fasse une passe en avant. Une passe en avant, tu m'entends? Donc, tu vois, ce serait très grave. C'est pas important que ce soit
alors
l'un.
Alors, pourquoi il le met là, alors?
C'est très grave. Parce qu'il n'y a pas de joueur. Et bon, ce
arrête,
serait très grave.
Non, mais il n'y a pas de joueur, mais arrête, Jean-Michel.
Mais il n'y a pas de joueur. Et ce serait la plus grosse erreur au Brésil de considérer que la seule personne responsable, c'est Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, le Brésil et la formation des joueurs brésiliens doivent se remettre en question. Ils ne travaillent plus depuis des années parce qu'auparavant, ils se baissaient pour ramasser les bons joueurs. Ils ne les ont plus. Il faut travailler comme travaille le Maroc
ça
aujourd'hui,
comme les champignons,
par exemple,
là-bas.
En Afrique. Voilà. Donc bravo, les responsables, Jean-Michel. Ils sont au sein de la fédération.
Vous en voulez encore ? Foncez, écoutez tout de suite l'intégrale de Roten sans flamme.